7h50 à Paris, votre invité Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin Camille Grand, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique et ancien conseiller diplomatique au ministère de la Défense.
Bonjour Camille Grand.
Bonjour.
Les dirigeants de la coalition contre l'État islamique étaient donc réunis hier à Paris pour tenter de trouver une réponse aux conquêtes de Daesh en Irak et en Syrie. Le premier ministre irakien s'est plaint de l'inefficacité de la coalition, beaucoup de mots et peu d'actes, a-t-il dit. Les dirigeants de la coalition lui ont confirmé leur soutien dans son plan de reconquête des territoires récemment perdus, en particulier dans la province d'Al-Anbar. Est-ce qu'on peut effectivement compter sur le Premier ministre irakien ?
Le problème, c'est que le pouvoir irakien est faible et s'appuie sur une armée qui l'est encore plus. Donc on a un processus de reconstruction en fait d'un État irakien qui a commencé, on va dire, avec le départ de M. Maliki, mais qui est un processus de longue haleine pour mettre en état l'État irakien de mener ses opérations de reconquête de manière durable, en s'appuyant sur une armée de préférence multiconfessionnelle et qui soit pas simplement le relais de milices chiites, ce qui est un des gros problèmes à la fois politique et sur le terrain.
On a vu des images de soldats de l'armée irakienne fuyant à toutes jambes, en quelque sorte, devant l'avancée des troupes de l'État islamique. C'est une armée aujourd'hui qui ne veut pas combattre l'armée irakienne ?
C'est une armée qui a été assez maltraitée depuis le départ des Américains, avec des soldats qui n'étaient pas payés, avec des situations dans lesquelles les milices confessionnelles tenaient le haut du pavé. Donc il faut, de ce point de vue-là, vraiment un gros travail de formation. Aujourd'hui, une partie de l'effort de la coalition porte sur ce point. Il y a environ 3000 soldats américains qui sont affectés à cet effort de formation. Il faut sans doute aller un peu plus loin dans ce domaine, à la fois formation et même en quelque sorte encadrement, qui ne peut pas se contenter d'être un encadrement d'état-major à haut niveau.
Les dirigeants de la coalition ont une nouvelle fois demandé hier, voire pressé même le Premier ministre irakien, de lancer des réformes pour mieux intégrer la communauté sunnite au système politique, au pouvoir et à l'armée également. Est-ce que c'est vraiment l'une des clés du problème ?
C'est la clé du problème. Aussi longtemps que les sunnites d'Irak se sentiront marginalisés et se trouveront donc dans une situation au mieux de neutralité passive à l'égard de Daesh, au pire de soutien actif, le conflit en Irak ne pourra pas être résolu. On a un quart de la population qui s'est trouvé depuis 2011, mis largement sur la touche et se sent en quelque sorte victime du pouvoir central. Il y a eu des manifestations, et puis il y a eu une forme de radicalisation d'une partie de cette communauté qu'il faut aujourd'hui ramener dans le giron de l'État irakien.
On ne peut pas régler le problème donc sans intégrer les sunnites, mais est-ce que pour autant la réintégration des sunnites est la garantie du règlement de la crise ?
Si on prend comme précédent le réveil sunnite au moment de l'occupation américaine, où à un moment les Américains avaient changé leur fusil d'épaule et avaient fait un gros effort d'intégration des tribus sunnites de l'Anbar en particulier, ce qui suppose tout simplement de les payer, un certain nombre de messages politiques vers eux, c'est envisageable. Cela dit, la confiance est assez largement rompue, donc c'est un travail de longue haleine.
Ouais, on a quand même du mal à comprendre que les 4000 bombardements de la coalition internationale depuis des mois n'aient pas réussi à stopper la progression des troupes de l'État islamique. Comment on peut l'expliquer, ça ?
Alors, dans un premier temps, ces bombardements ont désorganisé l'État islamique, qui n'a pas été en mesure de poursuivre son espèce d'avancée vers Bagdad, qui était le cœur des préoccupations l'été dernier. En même temps, ce qui est vrai, c'est que ces frappes, qui sont pas si nombreuses que ça et qui sont très ciblées, un des efforts de la coalition n'étant de ne pas s'aliéner la population chiite par des frappes indiscriminées. Ce que ça nous dit en réalité, c'est que les campagnes aériennes ne se gagnent qu'avec des troupes au sol, même si c'est pas les mêmes troupes. Et aujourd'hui en Irak, les troupes au sol sont ou cette armée irakienne faible et désorganisée, ou des groupes comme les Kurdes, qui sont certes solides, mais qui ont comme principal objectif de défendre leur périmètre, pas de mener une offensive pour reconquérir le territoire sunnite.
Et le problème, c'est aussi qu'avec un apport permanent de combattants étrangers, cette armée de l'État islamique se reconstitue sans cesse, en fait, non ?
Alors, c'est ce que dit le Premier ministre irakien.
Oui, il parle, lui, aujourd'hui de 60% du total des combattants venus de l'étranger. Elle vous paraît juste, cette proportion ?
Ce chiffre, à l'échelle de Daesh, paraît juste. Cela dit, je pense qu'il faut distinguer le front syrien du front irakien. En Syrie, Daesh est très largement composé d'étrangers, ce qui explique d'ailleurs que la greffe ne prenne pas complètement. En Irak, c'est un Il y a certes des étrangers, mais il y a aussi beaucoup d'Irakiens sunnites, d'anciens cadres du parti Baas. C'est devenu le lieu où l'opposition armée sunnite se retrouve.
Ouais. Vous parliez de l'Iran. L'Iran n'a pas été associé aux discussions d'hier. Est-ce que les membres de la coalition pensent vraiment aujourd'hui pouvoir régler le problème sans prendre l'Iran en compte, sans l'associer au fond à des négociations?
Alors, il y a deux difficultés là-dessus. D'une part, effectivement, l'Iran joue un rôle important sur le terrain. Le général Soleimani, la force Quds, est engagé directement en Irak et est un acteur du conflit, d'une certaine manière, aux côtés du gouvernement irakien sunnite, chiite. Le problème est politique, c'est-à-dire que associer l'Iran aux discussions sur l'avenir de l'Irak et à la lutte contre Daesh, ça semble faire sens. En même temps, ça n'est pas un dossier qui est géré par le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Zarif, donc ce serait une présence avant tout symbolique. Et ensuite, les Iraniens et le reste de la coalition poursuivent des objectifs radicalement différents en Syrie, puisque en Syrie, l'Iran est le premier soutien de Bachar el-Assad. Donc ça crée une très forte difficulté politique. Cela dit, le fait de parler avec l'Iran du dossier de Daesh est une nécessité.
L'Iran aujourd'hui a un rôle vraiment prédominant dans le conflit, en Syrie en particulier?
L'Iran a un rôle prédominant dans les deux conflits. Ouais. L'Iran a plus d'influence en Irak que les Américains et a plus d'influence en Syrie que les Russes. C'est aujourd'hui la puissance régionale qui tient Bachar à bout de bras et qui a conduit à la radicalisation confessionnelle du gouvernement irakien.
Alors, on a beaucoup parlé de l'Irak, et d'ailleurs la coalition hier, cette réunion s'est largement consacrée à l'Irak, mais les forces de l'État islamique contrôlent aussi une partie importante du territoire syrien. On ne peut pas concevoir de rétablir la sécurité dans la région tant que le chaos régnera en Syrie.
C'est toute la difficulté de cette crise, c'est que effectivement, si la coalition parvenait à repousser Daesh du cœur de l'Irak, Daesh pourrait se reconstituer de l'autre côté de la frontière en Syrie, où la coalition ne veut pas aller et où les alliés au sol sont encore plus discutables qu'en Irak. Donc on est devant effectivement ce proto-État qui est à cheval sur deux nations, ce qui rend la lutte contre Daesh extraordinairement difficile. Ceci étant dit, en Syrie, on a une situation où Daesh contrôle environ un tiers du territoire, mais c'est une partie très largement désertique, à part la ville de Palmyre et un petit peu plus au nord.
Les dirigeants occidentaux ne veulent pas soutenir Bachar el-Assad dans la lutte contre l'État islamique, mais est-ce qu'il reste aujourd'hui une opposition structurée et crédible à laquelle il serait possible d'apporter une aide et qui soit efficace?
La difficulté, c'est qu'il reste plus grand monde en Syrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix entre un État syrien criminel mais efficace, parce qu'en réalité, le système de Bachar el-Assad s'est lui-même écroulé, ne tient qu'avec le soutien iranien et les milices du Hezbollah payées par les Iraniens d'un côté. Et de l'autre côté, on a une opposition qui est très déstructurée, qui est plus légitime, me semble-t-il, politiquement, mais qui est divisée et qui représente des courants très différents. Donc l'enjeu, qui est un enjeu de long terme, c'est comment structurer et équiper cette opposition syrienne pour qu'elle soit un acteur sur le terrain, à la fois face à Daesh, et qu'elle puisse être en mesure de négocier avec Bachar el-Assad, non pas Bachar, mais avec les éléments du régime de Bachar, une sortie de crise raisonnable sur le plan politique.
Merci Camille Grand. Bonne journée.
Merci.